Avant le drame de la Passion, nous sommes ce soir dans l'émerveillement et l'admiration devant Jésus. Ce condamné à mort, innocent, livre aux coupables que nous sommes en testament ses ultimes enseignements, son cœur et finalement tout lui-même dans le mystère de la Sainte Eucharistie. Chers frères et sœurs, Jésus nous aime tous, mais pas en vrac, si l'on puis dire. Il m'aime personnellement. Aussi veut-il mon bien, mon vrai bien, celui qui va me rendre profondément heureux dès ici-bas, même dans l'épreuve, et ce, en me purifiant et en me sanctifiant. La sainteté, c'est la vie de Jésus passée en moi. Aussi dit-on que c'est une œuvre de divinisation qui doit se réaliser. Mais comment cela va-t-il se faire? Eh bien, ce soir, Jésus me donne l'exemple et me donne la grâce, si je n'y mets pas d'obstacle, de l'humilité et de la charité. Deux vertus de Jésus qui brillent particulièrement dans notre nuit après avoir entendu cet évangile. D'abord, l'humilité. C'est la vertu morale sans doute la plus importante et peut-être celle qui nous manque le plus, car elle ne peut régner véritablement dans une âme si l'orgueil s'y trouve. Cohabitation à peu près impossible. Je ne parle pas ici de notre nature orgueilleuse, mais de l'orgueil assumé et cultivé, entretenu, délibéré, même si, évidemment, on ne le reconnaîtra pas comme tel. Et là, c'est encore un signe de cet orgueil. Vous savez que le curé d'Ars disait de l'humilité qu'elle est la chaîne du chapelet de toutes les vertus. Autrement dit, sans elle, tout s'en va. Un moine d'Orient disait aussi « La plus grande action est d'acquérir l'humilité et la sainteté. » Aussi Jésus, lui, le roi éternel de gloire, Dieu le Fils, fait homme, s'humilie-t-il ce soir jusqu'à se faire l'esclave de ses apôtres en leur lavant les pieds? On comprend qu'il s'en soit complètement bouleversé et Pierre manifeste son incompréhension. Jésus aurait pourtant tant de droits à se faire servir, lui, le Maître et Seigneur. Mais il faut se souvenir aussi que ce soir, Jésus va faire de ces hommes qui l'entourent les premiers prêtres de la Nouvelle Alliance. Des hommes pouvant pardonner les péchés, des hommes pouvant le faire descendre ici-bas, lui, Jésus, avec son corps, son sang, son âme, sa divinité, par les célébrations de la Sainte Messe, et ce, dans une toute petite hostie. Face au terrible orgueil spirituel que peut engendrer un tel pouvoir, Jésus rappelle que le service du sacerdoce doit s'exercer dans la plus profonde humilité. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Et il ajoutera un peu plus loin, ce n'est pas dans le passage que nous avons entendu, « Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites ». Et puis saint Paul nous l'a rappelé, les paroles de la consécration du corps et du sang du Seigneur s'achèvent ainsi. Faites cela en mémoire de moi. Eh bien, ne peut-on pas étendre dans un sens spirituel ces mots à toute la vie du prêtre? Autrement dit, vous prêtres et le peuple à sa suite, soyez saints, soyez humbles comme moi, pour célébrer ces grands mystères. Au monastère du Buisson Ardent, à Curières en Chartreuse, où j'étais il y a quelques jours, chez les sœurs de Bethléem, il y a une cellule, une chambre si vous préférez, qui est d'ordinaire réservée aux prêtres. Cette chambre possède une lucarne à deux portes qui donne directement dans l'église, au-dessus du chœur, et permet de voir alors de très près le tabernacle. Cela vous donne un accès facile à Jésus de jour comme de nuit. Mais, il y a une condition pour le voir. Il faut s'abaisser. Il faut nécessairement s'agenouiller, car cette lucarne est placée bien bas dans le mur de la chambre. Si vous restez debout, ou même simplement penché, vous ne voyez rien. Non, dans cette pièce, il faut s'abaisser, s'agenouiller pour rencontrer le Seigneur au Saint-Sacrement. C'est une belle image, je crois, de l'humilité que nous devons avoir devant notre roi Jésus, et spécialement nous, les prêtres. Par ailleurs, très tôt dans l'Église, on a vu aussi un sens spirituel et sacramentel au lavement des pieds. Cette purification physique est le symbole des sacrements qui lavent et recréent notre âme. Le baptême est plus encore peut-être la pénitence. En effet, la confession est sans doute, si elle est bien pratiquée dans la sincérité, la contrition et la fréquence, la meilleure école pour grandir en humilité. Humilité en acte, par l'accusation parfois désagréable pour soi de nos fautes, et humilité infuse en nous par la grâce du sacrement. De fait, on ne vient pas se confesser pour y briller, si ce n'est par sa misère et par ses péchés. Qu'on dépose alors dans le cœur de Jésus cet océan de feu qui peut absolument tout consumer, tout brûler. Confesser sincèrement ses péchés n'a rien de facile quand on est orgueilleux. Mais là est justement le plus important. C'est bien là que le Seigneur nous attend, afin de nous purifier, nous guérir, nous fortifier. Quelle merveille, le péché se change en grâce. Et ici plus qu'ailleurs, l'homme comprend que tout bien en lui vient de Dieu, et que laissé à lui-même, il n'est que ténèbres et impureté, fût-il très brillant à l'extérieur. Ce sacrement contribue donc puissamment à rendre l'homme plus humble et ainsi à prendre conscience de ce qu'il est devant Dieu. Une misérable poussière, infiniment aimée, dont Dieu veut faire son ami et son éternel compagnon dans l'éternité. Alors nous devons évoquer ici la deuxième vertu de Jésus qui brille en cette nuit, c'est la charité. Saint Thomas d'Aquin définit la charité comme une certaine forme d'amitié entre Dieu et moi. L'écrivain Henri Pourrat, dans son roman le plus célèbre, Gaspard des Montagnes, fait dire ces mots par l'héroïne écrasée d'épreuves. Peut-être que c'est si simple. Il suffit de voir que l'âme a été donnée pour aimer. Tout le reste, affaires, soucis, vengeance, quels enfantillages. L'âme est faite pour aimer, et aimer Dieu en premier lieu. Qui dit amitié dit réciprocité. Aussi faut-il que j'aime Dieu en retour, et aussi l'homme crée à son image, est destiné comme moi à marcher vers la gloire. Il faut donc que je trouve comment m'unir à Dieu, autrement dit que je l'aime réellement. Et cette union, elle se réalise de deux manières. D'abord, l'union de nos deux volontés, celle de Dieu et la mienne. Deux amis intimes tendent normalement à n'avoir qu'une seule volonté. Eh bien, nous qui disons chaque jour dans le Notre Père « Que ta volonté soit faite », la désirons-nous vraiment, cette volonté? Voulons-nous tout ce que le bon Dieu veut, ou du moins permet pour nous, que ce soit plaisant ou non, agréable ou pas, consolant ou éprouvant? Et avant cela, voulons-nous de tout notre cœur suivre tous les commandements de Dieu et vivre selon l'Évangile, sans arrangement ni compromis, avec l'esprit et les mœurs du monde? Saint Augustin a une belle formule. Celui-là plaît à Dieu, à qui Dieu plaît. C'est-à-dire, celui qui est content devant toute volonté de Dieu, celui qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, comme le dit le psaume numéro 1, celui-là peut être sûr que Dieu aussi est content de lui et qu'il trouve sa joie en lui. Et cette union de volonté entre celle de Dieu et la mienne doit aboutir à une union réelle. Elle la prépare, mais aussi elle la suit, pour mieux observer ensuite les commandements de Dieu, la loi nouvelle de l'Évangile, avec au cœur les béatitudes, et enfin bien remplir notre devoir d'État. Et cette union réelle, elle se réalise par la prière, bien sûr, mais surtout et éminemment par la communion au corps très saint et vivifiant du Seigneur. Là, je ne fais plus qu'un avec Jésus et par lui avec la Sainte Trinité. Voyez avec quel infini respect, avec quel amour, avec quelle délicatesse aussi, avec quelle vie cohérente à l'Évangile, je dois m'approcher du sacrement de l'Eucharistie. Mais là, encore une fois, la confession fréquente m'y aidera, disons même qu'elle est indispensable. Quand on a communié dans de bonnes dispositions, pour que cette union réelle soit la plus parfaite possible, on doit ensuite non pas se préoccuper de ce que fait le voisin, non pas regarder en l'air, mais se plonger dans l'adoration, confus devant tant d'amour de Jésus pour nous. D'une certaine manière, tout doit disparaître autour de nous pour ce moment d'intimité si grand avec lui. C'est ce qu'on appelle, vous le savez bien, l'action de grâce. Les sœurs des monastères de Bethléem, dont je vous parlais il y a quelques instants, pour information, y passent 30 minutes après chaque messe. Voyons où nous en sommes. 30 minutes, ce n'est sans doute pas possible, mais enfin, on ne quitte pas l'église ou la chapelle ou que sais-je, le lieu où la messe est célébrée, sans une véritable action de grâce. Car là, dans l'union, Jésus infuse à celui qui lui prête attention toutes les vertus qui font les saints, et donc ses amis. Alors demandons-lui spécialement, ce soir, humilité et charité. Demandons-lui aussi de saintes vocations sacerdotales parmi vous les garçons, pour que continue à venir jusqu'à nous, à travers le temps et l'espace, l'offrande de son sacrifice sur la croix, par laquelle il nous a aimés jusqu'au bout et par laquelle il nous apprend à aimer en retour. Amen.